4. Je regardais la lumière qui entrait par la porte ouverte et allait jeter un coup d'œil dehors de temps à autre. Tout était calme. Même les rats et les corbeaux évitaient ce secteur. Je lançais son singe à radar. Elle le prit dans sa gueule et le fit couiner 2 ou 3 fois pour la forme, mais n'essaya pas de me le rapporter. Elle le laissa tomber entre ses pattes et s'endormit en posant sa truffe dessus. La potion de Claudia lui avait fait du bien. Hélas, les effets s'étaient dissipés et elle refusa d'avaler les 3 derniers comprimés que m'avait donné l'assistante du vétérinaire. Sans doute avait-elle épuisé ses dernières forces en dévalant l'escalier en colimaçon et en courant vers Dora. Si je ne la conduisais pas rapidement au cadran solaire, je ne la retrouverais pas endormie, mais morte. J'aurais pu faire des jeux sur mon téléphone pour tuer le temps, mais ce n'était plus qu'un rectangle en vert noir. Je tentais de le redémarrer, mais je ne réussis même pas à faire apparaître la pomme. La magie des contes de fées n'avait pas cours dans le monde d'où je venais, et la magie de mon monde n'opérait pas dans celui-ci. Je rangeai le téléphone dans mon sac et regardai par la porte ouverte décliner la lumière du ciel blanc et nuageux. Lorsque les 3 cloches du soir retentirent, je faillis refermer la porte, mais je ne voulais pas me retrouver dans le noir avec juste le briquet de mon père pour repousser l'obscurité. Je gardai les yeux fixés sur l'église, si c'en était une, de l'autre côté de la rue, en me disant que je fermerais la porte lorsque je ne la verrai plus. S'il n'y avait pas d'oiseaux et de rats, il y avait peut-être tout de même des loups et autres prédateurs. Claudia m'avait bien conseillé de m'enfermer à double tour et j'avais l'intention de l'écouter. Lorsque l'église ne fut plus qu'une forme indistincte dans un monde qui s'assombrissait, je décidai de fermer la porte. Radar leva la tête, dressa les oreilles et émit un faible « ouf ». Parce que j'avais bougé, pensais-je. Mais non. Malgré son âge, son ouïe était meilleure que la mienne. Quelques secondes plus tard, j'entendis un léger battement d'ailes, comme une feuille de papier coincée dans un ventilateur. Il approchait rapidement et enflait jusqu'à évoquer le souffle du vent. Je savais ce que c'était. Alors que je me tenais dans l'encadrement de la porte, la main sur le siège du tricycle, Radar me rejoignit. On leva les yeux vers le ciel. Les monarques venaient de la direction dont j'avais décidé arbitrairement que c'était le sud, celle d'où on venait nous aussi. Ils assombrirent encore un peu plus le ciel en formant un nuage sous les nuages. Ils se posèrent sur l'église en face, sur les quelques cheminées encore debout, sur un amas de gravats et sur le toit du hangar où on avait trouvé refuge, Radar et moi. Le bruit qu'ils produisaient, il devait être des milliers, ressemblait moins à des battements d'ailes qu'à un long soupir. Je croyais comprendre maintenant pourquoi ce terrain vague bombardé me paraissait plus sûr que désolé. Parce qu'il était sûr. Les monarques avaient conservé cet unique avant-poste dans un monde qui avait jadis été plus agréable à vivre, avant que les membres de la famille royale aient été assassinés ou chassés. Dans mon monde, pensais-je, et je n'étais pas le seul, toutes ces histoires de royauté, c'était des conneries, de la matière pour les tabloïds de supermarché du genre National Enquirer et Inside View. Les rois et les reines, les princes et les princesses, ce n'étaient que des familles comme les autres, qui avaient eu la chance de tirer tous les bons numéros à la loterie génétique. Ils baissaient leur froc pour chier, comme les prolos. Mais ici, ce n'était pas le même monde. À Empis, d'autres règles s'appliquaient. Ici, c'était l'autre. Le nuage de papillons rentrant chez eux s'était dissipé, ne laissant que l'obscurité grandissante. Le soupir de leurs ailes s'atténua. Je verrouillerai la porte du hangar, car Claudia avait insisté, mais je me sentais en sécurité, protégé. « Ave Empis, » dis-je tout bas, « Ave les Galiens. » Puisse-t-il régner de nouveau et pour toujours? Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, bordel? Tout était préférable à cette désolation. Je fermai la porte et poussai le verrou. 5. Dans le noir, il n'y avait rien d'autre à faire que dormir. Je posai mon sac à dos entre les 2 wagons, à côté de radar, roulé en boule, mis ma tête dessus et m'endormis presque aussitôt. J'eus quand même le temps de songer que, n'ayant pas de réveil, je risquais d'avoir une panne d'oreiller et de partir trop tard, ce qui pourrait se révéler fatal. Mais je m'inquiétais pour rien, car radar me réveilla, en toussant, longuement. Je lui donnai de l'eau et ça la soulagea un peu. Si je n'avais pas de réveil, j'avais une vessie qui exigeait d'être vidée. J'envisageais d'uriner dans un coin du hangar, mais ce n'était pas ainsi qu'on traitait un refuge. Je déverrouillais la porte, l'entrebâillais et risquais un coup d'œil dehors. Aucune étoile, aucun clair de lune ne filtrait à travers les nuages bas. En face, l'église était floue. Je me frottais les yeux pour éclaircir ma vision, sans résultat. Ça ne venait pas de mes yeux. C'étaient les papillons, encore endormis. Je croyais savoir qu'ils ne vivaient pas longtemps dans mon monde, quelques semaines seulement, quelques mois peut-être, mais ici. Je perçus un mouvement à la périphérie de mon champ de vision. Je tournai la tête. Rien. Mon imagination me jouait des tours. Ou alors la chose que je croyais avoir entreaperçue avait disparu. Après avoir uriné, en regardant par-dessus mon épaule, je retournai dans le hangar. Je poussai le verrou et rejoignis radar dans le noir. Pas besoin d'utiliser le briquet de mon père. Sa respiration rauque me guidait. Je replongeais dans le sommeil, pendant une heure environ, peut-être deux. Je rêvais que j'étais dans mon lit, dans notre maison de Sycamore Street. Je me redressais, essayais de bâiller, sans y parvenir. Je n'avais plus de bouche. Réveillé en sursaut, je fus accueilli par une nouvelle quinte de toucanine. Radar avait un œil ouvert, mais l'autre, collé par cette substance jaunâtre visqueuse, lui donnait un air de pirate sadique. J'essuyai le pu et retournai à la porte. Les monarques occupaient toujours leur perchoir, mais le ciel s'était légèrement éclairci. Il était temps de manger un morceau et de se remettre en route. Je déposai une boîte de sardines ouverte sous le nez de radar, mais elle tourna la tête aussitôt, comme écœurée par cette odeur. Il restait deux sablés aux noix de pécan. Elle en mangea un, essaya de manger le second, mais le recracha en toussant. Elle me regarda. Je pris sa tête entre mes mains et la fis pivoter délicatement de droite à gauche, car je savais qu'elle aimait ça. J'avais envie de pleurer. « Tiens bon, Fifi. Ok, s'il te plaît. » Je la transportai dehors et la déposai sur ses pattes, en douceur. Elle marcha vers la gauche de la porte avec cette prudence craintive des personnes âgées, trouva l'endroit où je m'étais soulagé et en fit autant. Je voulus la reprendre dans mes bras, mais elle me contourna pour boitiller jusqu'à la roue arrière droite du tricycle, la plus proche de la route. Elle la renifla et s'accroupit pour pisser de nouveau, en émettant un grognement. Je m'approchai à mon tour de la roue et me penchai pour l'examiner. Il n'y avait rien à voir, mais j'étais sûr que la chose entrevue un peu plus tôt était revenue à proximité du hangar pendant que j'étais à l'intérieur. Et elle avait pissé sur mon moyen de locomotion, comme pour dire « Ici, c'est mon territoire ». J'avais pris mon sac à dos, mais il y avait autre chose que je souhaitais récupérer. Je retournai dans le hangar. Radar me suivit du regard sans se lever. Je fouillai dans tous les coins jusqu'à ce que je trouve une pile de couvertures moisies, peut-être destinées, il y a longtemps, aux passagers du tramway pour s'en mitoufler quand il faisait froid. Si je n'avais pas décidé de vider ma vessie dehors, j'aurais pu pisser dessus sans le vouloir dans le noir. J'en pris une et la secouai pour la déplier. Plusieurs mites mortes dégringolèrent sur le sol, semblables à de gros flocons de neige. Je la repliai plusieurs fois pour en faire un petit coussin que je rapportais au tricycle. « Ok, radar, finissons-en. Qu'en dis-tu ?» Je la hissai dans le panier et glissai la couverture sur le côté. Claudia m'avait dit d'attendre que sonne la première cloche avant de partir, mais la présence des monarques me donnait un sentiment de sécurité. Je grimpais sur la selle et pédalais lentement en direction de la porte découpée dans le mur d'enceinte. Une demi-heure plus tard, environ, la cloche du matin retentit. si près de la ville, elle était assourdissante. Les monarques s'envolèrent en formant une immense vague noire et or qui déferla vers le sud. Je les regardais partir en regrettant de ne pas pouvoir suivre la même direction, vers le cottage de Dora, puis vers l'entrée du tunnel, et mon monde d'ordinateurs et d'oiseaux en acier qui volaient dans le ciel. Mais, comme le dit le poème, j'avais des promesses à tenir et des lieux à parcourir. Au moins, les soldats de la nuit sont partis, songeai-je. Ils ont regagné leur crypte et leur mausolée, car c'est là que dorment les créatures de leur espèce. Rien ne me permettait de l'affirmer, et pourtant je le savais. 6. On atteignit la porte en moins d'une heure. Je descendis du tricycle. Les nuages étaient plus bas et lourds que jamais, et je devinais que la pluie n'allait pas tarder à faire son apparition. En estimant que le mur atteigne les 15 mètres de haut, j'étais loin du compte. Il en faisait au moins 20, et la porte était gigantesque. Elle était dorée, de l'or véritable, pas de la peinture, je l'aurais parié, et presque aussi longue qu'un terrain de foot. Les piliers qui la soutenaient étaient de guingois, mais pas à cause des ans et du pourrissement. J'étais certain qu'ils avaient été disposés ainsi, délibérément, pour former des angles étranges. Une fois encore, je repensais à Lovecraft et à cet univers délirant, non euclidien, peuplé de monstres qui tentaient en permanence de dominer le nôtre. Les angles bizarres n'étaient pas la seule chose dérangeante. Ces piliers étaient composés d'une substance verte trouble qui ressemblait à une sorte de verre métallique, et quelque chose semblait bouger à l'intérieur, comme de la vapeur noire. Je sentis mon estomac se soulever. Je tournai la tête et quand je regardais de nouveau, la matière noire avait disparu. Lorsque je revins sur les piliers du coin de l'œil, la fumée noire sembla réapparaître. Je fus pris de vertige. De peur de rendre mon maigre petit déjeuner, je contemplais mes pieds. Et là, sur un des pavés, tracé à la peinture, bleu sans doute à l'époque mais devenu grise, je découvris les deux initiales, A, B. Ça m'éclaircit les idées. Et lorsque je relevai la tête, je vis uniquement la porte quadrillée par ses supports verts. Mais quelle porte ! On aurait dit les effets spéciaux d'un film à grand spectacle. Pourtant, ce n'était pas un trucage. Je tapotais un des piliers verts avec mon poing, comme on frappe à une porte, pour être sûr. Que se passerait-il si je prononçais le nom de Claudia devant cette porte, ou celui de Stephen Woodley ? L'un et l'autre étaient de sang royal, non ? La réponse était oui. Toutefois, si j'avais bien compris, je n'avais jamais été très doué pour démêler les liens familiaux. Seule la princesse Léa était l'héritière désignée du trône d'Empis. À moins qu'il s'agisse du trône des Galiens. Peu importait, du moment que je réussissais à entrer, si ce sésame ne fonctionnait pas, je resterais à l'extérieur et Radar mourrait. Cet imbécile de Charlie cherchait un interphone, le genre de truc qu'on trouverait à l'entrée d'un immeuble. Il n'y avait rien de tel ici. Évidemment, uniquement ces étranges étais entrecroisés et l'obscurité impénétrable au milieu. Je murmurais « Léa des Galiens ?» Rien ne se passa. « Pas assez fort, me dis-je. Mais crier dans le silence qui entourait le mur me paraissait inconvenant. Ça aurait été comme cracher dans un bénitier, plus ou moins. Fais-le quand même. À l'extérieur de la ville, c'est sûrement sans danger. Fais-le pour Radar. » Ne pouvant me résoudre à crier, je me raclai la gorge et haussai la voix. « Ouvre-toi au nom de Léa des Galiens !» La réponse fut un hurlement inhumain qui me fit reculer et presque basculer par-dessus la roue avant du tricycle. Vous connaissez cette expression « avoir le cœur au bord des lèvres » ? Le mien semblait désireux de jaillir de ma bouche pour décamper, me laissant mort sur le sol. Le hurlement se poursuivit et je compris qu'il s'agissait d'un bruit produit par une machine titanesque qui se remettait en marche après des années ou des décennies d'inactivité. depuis que M. Boditch avait utilisé pour la dernière fois cette version locale du « Sésame, ouvre-toi, peut-être ». La porte trembla. Je vis les volutes noires se tortiller et s'élever à l'intérieur des étais verts obliques. Le doute n'était plus permis. C'était comme regarder flotter des sédiments dans une bouteille qu'on vient de secouer. Le hurlement strident de la machinerie se mua en grondement de tonnerre et la porte commença à se déplacer vers la gauche, ce qui devait être un énorme rail invisible. Alors que je la regardais coulisser, les vertiges réapparurent, plus violents encore. Je détournai la tête et fis quatre pas titubants jusqu'à la selle du tricycle de Claudia sur laquelle j'appuyais mon front. Mon cœur cognait dans ma poitrine, mon cou et même dans ma mâchoire. Impossible de regarder ces angles qui ne cessaient de changer tandis que la porte s'ouvrait. J'avais peur de m'évanouir ou de voir une chose si affreuse qu'elle me renverrait là d'où je venais à toutes jambes, laissant derrière moi ma chienne à l'agonie. Je fermais les yeux et empoignais sa fourrure à tâtons. « Tiens bon !» me dis-je. « Tiens bon, tiens bon, tiens bon !» 7. Le grondement de tonnerre cessa enfin. Et après un ultime grincement de protestation, le silence revint. Plus exactement, il retomba comme une enclume. Ouvrant les yeux, je vis que Radar me regardait. Je remarquai que je lui avais arraché une grosse touffe de poils sans m'en rendre compte, mais elle n'avait pas bronché. Peut-être parce qu'elle était en proie à bien d'autres souffrances, mais je ne le croyais pas. Elle avait surtout compris que j'avais besoin d'elle. « Ok, » dis-je. « Voyons voir ce qu'on a là. » Devant moi, de l'autre côté de la porte, s'ouvrait une cour dallée flanqué des vestiges de gigantesques papillons de pierre juchés sur des piédestaux et culminant à 7 mètres du sol. Leurs ailes, brisées, n'étaient plus que des tas de gravats dans la cour. Ils formaient une sorte de passage et je me demandais si, en des temps meilleurs, chacun de ces papillons monarques, bien évidemment, avait représenté un roi ou une reine de la lignée des Galiens. Le hurlement retentit de nouveau et je m'aperçus que la porte s'apprêtait à se refermer. Je pourrais peut-être la rouvrir en prononçant encore le nom de Léa, mais peut-être pas. Et je n'avais pas envie de tenter l'expérience. Je me remis en selle et pédalai pour pénétrer dans la cour au moment où la porte commençait à coulisser en sens inverse. Les pneus en caoutchouc suintaient sur les dalles, colorés jadis, aujourd'hui délavés et ternis. Tout devient gris, pensais-je. Où prend cette couleur verte, trouble et écœurante? Les papillons, peut-être colorés eux aussi autrefois, désormais aussi gris que tout le reste, nous toisèrent lorsqu'on passa. Si les corps étaient intacts, les têtes, à l'instar des ailes, avaient été saccagées. Cela me rappela ces vidéos montrant Daesh en train de détruire des statues, des temples et des objets très anciens considérés comme blasphématoires. On atteignit une double arche représentant des ailes de papillon. Une inscription figurait au-dessus, presque entièrement détruite, elle aussi. Ne restait que les deux lettres, L-I. Ma première pensée fut Lilimar, le nom de cette cité, mais ça pouvait aussi être Galien. Avant de passer sous cette arche, je me tournai vers Radar. On ne devait faire aucun bruit. Toutes les personnes que j'avais rencontrées me l'avaient bien fait comprendre à leur façon, et je pensais que ça ne serait pas un problème avec Radar. Elle s'était endormie, ce que je trouvais à la fois rassurant et inquiétant. L'arche était humide et sentait le pourri. Au-delà, il y avait un bassin circulaire dont la margelle de pierre était incrustée de lichen. Peut-être contenait-il autrefois une belle eau bleue. Peut-être que des gens venaient s'asseoir sur ces pierres à l'heure du déjeuner pour se restaurer en regardant des canards et des cygnes dans leur version empissarienne glisser à la surface. Des mères tenaient leurs enfants par les aisselles pour qu'ils puissent y tremper les pieds. Aujourd'hui, il n'y avait plus ni oiseaux ni promeneurs. Et s'il y en avait eu, ils se seraient tenus à l'écart de ce bassin comme d'un poison, car il en avait toute l'apparence. L'eau, d'un vert opaque et visqueux, semblait presque solide, et les vapeurs qui s'en échappaient étaient réellement méphitiques, telles que j'imaginais la puanteur d'une tombe pleine de corps en décomposition. Le bassin était entouré d'une allée dallées circulaires, juste assez large pour laisser passer le tricycle. Un des carreaux de pierre sur la droite portait les initiales de M. Bauditch. Je pris cette direction, puis m'arrêtai et regardai en arrière, certain d'avoir entendu quelque chose. Un raclement de pas ou le murmure d'une voix. « Ne fais pas attention aux voix que tu peux entendre », m'avait dit Claudia. Je n'entendais plus rien maintenant, et rien ne bougeait à l'ombre de l'arche que je venais de franchir. Je pédalais lentement sur le côté droit du bassin abandonné. De l'autre côté se dressait une seconde arche. Alors que je m'en approchais, une goutte de pluie tomba sur ma nuque, puis une autre. Elles commencèrent à marteler le bassin, creusant de minuscules cratères à la surface de l'eau verte. Sous mes yeux, quelque chose en émergea une ou deux secondes, avant de disparaître. Il m'avait semblé entreapercevoir le scintillement fugace d'une rangée de dents. La pluie redoubla de violence. Bientôt, ce serait le déluge. À l'abri sous la seconde arche, je descendis du tricycle et étendis la couverture sur ma chienne endormie. Si moisie et rongée au mythe soit-elle, je me réjouissais de l'avoir emportée.